Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui est la première d'une série de 5 au cours desquelles nous rediffuserons en alternance avec des émissions actuelles l'histoire des conciles œcuméniques avec Olivier Clément. Il s'agit en effet d'émissions enregistrées et diffusées en 1999 sur les 6 premiers conciles œcuméniques qui sont présentés et commentés par Clément, grand historien orthodoxe, mort en janvier dernier. En guise d'introduction à cette première rediffusion, je vous propose un texte d'Olivier Clément tiré de son livre « L'Église orthodoxe » paru dans la collection « Que sais-je » aux Presses universitaires de France. Dans ce texte, Clément présente brièvement les 7 conciles œcuméniques. Avec la conversion de l'Empire romain au IVe siècle et la christianisation généralisée du monde méditerranéen, la rencontre des philosophies hellénistiques oblige l'Église à préciser le contour intellectuel du mystère dont elle vit. Contrairement aux scolastiques du Moyen-Âge latin, les pères grecs n'ont pas tenté d'établir une synthèse entre révélation et philosophie. Avec une liberté souveraine, ils ont utilisé la technique philosophique de leur époque sans jamais s'enfermer dans un système entreprenant, dans une perspective toujours concrète, sotériologique, cette métamorphose chrétienne des concepts que Byzance achèvera. Le génie sémitique, charnel, d'Antioche, corrige le génie plus symbolique d'Alexandrie. La grande ascèse du désert ordonne la théologie à la contemplation, et avec Macaire le Grand, on retrouve, contre tout dualisme hellénistique, l'unité biblique de l'homme autour du cœur. C'est à cette époque, dans le cadre de l'Empire chrétien et à l'initiative des empereurs, soucieux de préserver l'unité de foi de leurs sujets, que se sont réunis dans l'Orient méditerranéen les 7 conciles dits écuméniques, c'est-à-dire d'écuménée, le monde habité, identifié avec l'Empire. L'Église orthodoxe a connu, avant et après, bien d'autres conciles dont les décisions sont venues enrichir son témoignage. Pourtant, elle reconnaît aux 7 conciles écuméniques une importance particulière, car ils ont précisé définitivement et d'une manière normative le message christologique de l'Église, le mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme, axe de toute foi chrétienne. Et avant la rediffusion de l'émission sur les 2 premiers conciles écuméniques, ceux qui ont eu lieu au IVe siècle, écoutons un extrait de la liturgie de la fête du jour, celle des saints archanges Michel et Gabriel. Ce chant est tiré du psaume 134 et est interprété par le chœur byzantin de Grèce, dirigé par Lycurgos Angelopoulos.
Oh,
Avant de parler de ces conciles, Olivier Clément, si vous voulez bien, parlons un peu du contexte historique de ce IVe siècle qui commence si mal pour le christianisme et qui pourtant sera si déterminant.
Oui, il commence mal parce qu'il représente une exaspération de la persécution contre les chrétiens, justement parce que les empereurs païens sentaient que l'histoire leur échappait, sentaient que les chrétiens étaient de plus en plus nombreux partout. Alors ils ont voulu écraser définitivement, et effectivement le siècle a commencé sur une grande persécution. Mais assez rapidement, les empereurs, et d'abord Constantin, bien entendu, se sont rendus compte que c'était sans espoir, et par ailleurs, il y a eu le miracle, si l'on peut dire, oui, de la vision de Constantin, quand il allait donner l'assaut à Rome, au pont Milvius, il a vu apparaître un signe dans le ciel, qu'il a reconnu comme étant le signe de la croix, qui n'était pas tellement utilisé à cette époque, c'est très intéressant d'ailleurs, avec cette parole, par ce signe tu vaincras. Et il a été vainqueur, et il a décidé à ce moment-là de mettre fin à la persécution. Le christianisme n'est pas devenu tout de suite religion d'État. Il a été simplement une religion parfaitement licite, comme les autres, et jusqu'en 381, avec l'empereur Théodose, il y a eu une sorte de liberté des cultes dans le monde romain. Et à ce moment-là, les chrétiens ont pu réaliser ce qu'ils n'avaient pu faire jusque-là que d'une manière tout à fait locale, c'est-à-dire réunir de grands conciles. Le concile vient du fait que dans les premiers siècles, l'Église était ressentie essentiellement comme une communauté eucharistique autour de l'évêque. C'est-à-dire que l'Église était une sorte d'immense, comment dire, je n'irai pas fédération, le mot n'est pas juste, mais d'immense communion de communautés eucharistiques, et chacune d'elles ne pouvait vérifier son appartenance à la vérité, et à la vérité qui s'exprimait dans l'Eucharistie, justement, que dans la mesure où elle était en communion avec les autres, où elle n'était pas isolée. Et cette absence d'isolement se marquait dans la réunion de certains évêques. D'abord, à cette époque-là, c'était les évêques de la même province, qui se réunissaient souvent au printemps et à l'automne. Mais c'était des petits conciles locaux qui avaient surtout un sens purement administratif. Et voilà qu'au début du IVe siècle, avec la fin des persécutions, on se rend compte que le christianisme est menacé par une hérésie majeure qui a toujours été son ombre, pourrait-on dire, et que nous appelons l'arianisme, du nom de son principal théoricien qui s'appelait Arius, qui était un prêtre cultivé d'Alexandrie et qui s'est trouvé opposé à son évêque, l'évêque Alexandre. La pensée d'Arius pourrait se ramener, on pourrait dire de manière très schématique, il faudrait nuancer d'ailleurs, que le Christ, tout en étant un être tout à fait extraordinaire, tout en étant au principe du monde, n'est pas Dieu. Il est une sorte d'ange. On pourrait dire que Jésus est un homme en qui est venu habiter cet ange du Logos, qui est au principe de la création, le Logos, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, dont parle justement l'évangile de Saint Jean. Et comme tout le monde à cette époque-là avait envie d'avoir un christianisme un peu facile, parce que si l'empereur devenait chrétien, et il était en train de devenir chrétien, il a reçu le baptême sur son lit de mort, comme ça se pratiquait beaucoup à cette époque, et l'arianisme était un christianisme facile. C'était facile de dire, voilà, Dieu est Dieu, Dieu est au ciel, il y a un Dieu unique, et puis il y a des grands prophètes, et le plus extraordinaire d'entre eux, finalement, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Alors, ça posait un problème sérieux, car enfin, si Dieu ne s'est pas incarné, comme disent les évangiles, finalement, il n'y a pas de lien véritablement possible entre l'homme et Dieu. Le pont entre l'homme et Dieu n'existait pas. Dieu reste au ciel, l'homme peut imiter les vertus de Jésus, mais on reste sur un plan purement moral. On n'atteint pas cette idée qui était chère à toute la pensée chrétienne depuis les origines, que si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme puisse devenir totalement vivant, participer à la vie même de Dieu, la formule qu'on trouve déjà chez saint Irénée de Lyon, qui était un grec d'Asie mineure venu dans les Gaules, à Vienne et à Lyon, et c'est le premier qui a lancé la formule « Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». C'est cela qui est en cause dans toute cette affaire de l'arianisme. Alors, il y a eu donc cette querelle qui a éclaté en Égypte. L'Égypte, c'était très important pour l'Empire, c'était le grenier de l'Empire en quelque sorte, et Constantin, l'empereur, a été extrêmement inquiet de cette situation. Il s'est dit, des troubles en Égypte, il faut rétablir la paix là-bas et en général dans l'Empire. Et il se sentait responsable. Il ira jusqu'à dire vous, aux évêques, vous êtes les évêques dans l'Église, mais moi je suis l'évêque du dehors, l'évêque qui est chargé de maintenir le bon ordre, de maintenir la paix. Alors il a décidé qu'il fallait réunir un concile, qui cette fois serait un concile où seraient représentées toutes les églises. Non pas que tous les évêques puissent être là, concrètement, mais toutes les régions, en tout cas, seraient représentées. Et alors, ce concile, qui est le premier des conciles que nous appelons œcuménique, et le mot œcuménique signifie la terre habitée tout entière. L'Empire romain se considérait comme l'Empire du monde. Ces conciles œcuméniques n'auront pas grand-chose à voir avec les conciles qui avaient lieu au printemps et à l'automne, dans chaque diocèse ou dans chaque métropole. Pour une raison extrêmement simple, c'est que le concile œcuménique ne se réunit pas d'une manière régulière. Il se réunit quand il y a un grand problème, quand il y a un risque, quand il y a un danger. Et les gens, les chrétiens de cette époque-là, avaient une grande répugnance à formuler, à construire des systèmes. Ils n'aimaient pas ça du tout. Ils aimaient l'écriture, ils aimaient la psalmodie, ils aimaient la prière. Ils pensaient que la vérité s'exprime beaucoup plus par la célébration que par des formules. Ils se méfiaient beaucoup même, n'est-ce pas, des concepts. Et l'époque, d'ailleurs, est une époque, de ce point de vue, extrêmement intéressante, parce que c'est l'époque où se rencontrent pleinement, oh, j'avais commencé avant, mais vraiment pleinement, à cette époque-là, la vieille pensée hellénique, tellement riche, tellement chargée de conceptions profondes, et qui s'était renouvelée, d'ailleurs, à la fin de l'Antiquité, avec le stoïcisme, avec le néoplatonisme. Il y a là une pensée magnifique, et d'autre part, alors, la révélation chrétienne. Alors, quel allait être le lien des deux? Et je crois que ce qu'on appelle les pères de l'Église et ce que les conciles œcuméniques ont exprimé a représenté une sorte de synthèse et de dépassement de l'opposition. Il n'y a pas eu véritablement opposition, il y a eu une recréation de la pensée qui a largement utilisé l'apport de la pensée grecque ancienne, mais dans le creuset biblique, et donc qui a renouvelé toute cette forme de pensée. Et donc le concile œcuménique apparaît comme un phénomène exceptionnel, et je dirais comme un phénomène charismatique. Le charisma, ça veut dire le don de l'Esprit Saint, et le concile, c'est charismatique. Ça se marque d'ailleurs par le fait qu'à la fin, tous doivent être d'accord, et quand c'était fini, quand on avait trouvé la formule qui chassait, qui répondait à ce qu'on commence à appeler l'hérésie. Aïrésis, ça veut dire le choix. L'hérésie, c'est en quelque sorte, c'est pas forcément quelque chose de faux, mais c'est quelque chose de partiel, et par là même de partial. C'est comme un choix que l'on ferait dans la vérité en disant il n'y a que ça qui est vrai, et le reste ne l'est pas. Et alors, à ce moment-là, on annonçait cela, et le concile répondait par des clameurs extraordinaires qui sont véritablement un phénomène charismatique. Ça a un côté extrêmement vivant, ces conciles, n'est-ce pas? Il y a naturellement tous les problèmes, toutes les luttes de tendance, de coulisses pendant le concile, mais quand on arrive à la décision, alors, c'est l'esprit qui souffle et les clameurs qui se répandent. Et ces conciles, il y en a eu 7, il y en aura 7 pendant le premier millénaire. On peut poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu par la suite, n'est-ce pas? Peut-être y a-t-il eu une sorte de discrétion de la part des orientaux pour ne pas tenir de concile œcuménique sans les occidentaux.
Donc revenons au premier concile, et disons aussi que les conciles, quand ils se réunissent, ils ont besoin, évidemment, pour essayer de déterminer un tout petit peu les limites et de la vérité.
Mais de poser justement le mot limite que vous venez d'employer est extrêmement juste, n'est-ce pas ? C'est le horos. Le horos est un garde-fou, n'est-ce pas ? C'est une limite qui est posée par le concile.
Et dans ce processus, donc, les conciles composent aussi des mots. Ils sont obligés de trouver des mots qui essayaient de définir
ça. Ça a posé beaucoup de problèmes, ça.
Voilà.
Parce que encore au premier concile qui s'est réuni à Nicée, c'est-à-dire au fond pas loin de Constantinople, beaucoup de théologiens, d'évêques hésitaient. Peut-on employer d'autres mots que les mots de l'Écriture ? Mais alors, ils se sont rendus compte que on pouvait se mettre d'accord, ils se sont tous mis d'accord, sur un texte qui était un symbole baptismal. Un symbole baptismal proposé, justement, par Eusèbe de Césarée. Et, très bien, même ceux qui étaient favorables à Arius étaient d'accord pour se ranger, pour accepter ce texte. Mais ceux qui avaient l'esprit le plus vif, le plus aigu, ont dit, mais ce texte, on peut aussi l'entendre dans un sens arien, ça ne suffit pas. Et alors, il faut donc pouvoir inventer des mots nouveaux. Et la chose sera bien précisée un peu plus tard par Saint Grégoire de Nazianze, qui dira, dans l'Esprit Saint, pour préserver le sens profond de l'Écriture, il faut quelquefois inventer des mots nouveaux. Et à Nicée, un mot nouveau a été utilisé, il traînait dans des textes philosophiques ou dans des ébauches de recherches théologiques, mais un mot très fort, c'est le mot « homoousios ». Pour définir ce qu'est le Fils par rapport au Père, qu'il n'est pas une simple créature, qu'il est Dieu, comme le Père est Dieu, et comme le dit le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tendu vers le Dieu, c'est-à-dire vers le Père, et le Verbe était Dieu, alors homoousios signifie de même essence. Non, même pas de même essence, identique à naissance au Père. Il est homoousios au Père. Et par là, c'est la plus étonnante vérité chrétienne qui va être précisée, d'ailleurs, à longueur de IVe siècle, ce mystère du Père et du Fils qui sont différents et qui pourtant sont un seul être. Voilà, ça je crois, c'est le coup de tonnerre de la ville de la victoire. Nicée, ça veut dire la ville de la victoire, et ce coup de tonnerre qui a fait entrer dans l'histoire le mystère de ce que aujourd'hui, d'une manière philosophique ou banale, et sans très bien comprendre ce que nous disons, ce que nous appelons la personne. La personne qui était le mot persona, pouvait signifier encore un masque de théâtre, par exemple, dans l'Antiquité, le prosopon grec, le persona latin. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le Père fait surgir de toute éternité en lui un autre que lui et qui pourtant est le même que lui. Voilà ce qui est indiqué par ce homoousios nicéen.
Et donc ce concile va donner naissance à un texte très important dans l'histoire de la chrétienté, un texte qui va être complété en 381 et qui
un
texte.
Ah oui, alors là, il y a tout le travail du IVe siècle, justement.
Et ce texte va être récité donc depuis à chaque liturgie, c'est le fameux credo
de Nicée-Constantinople. Parce que, voilà ce qui est très intéressant, on voit à ce moment-là qu'un concile, ça ne fonctionne pas d'une manière juridique automatique. C'est pas parce que le concile a défini un texte, a défini une formule, un homoousios, que tout le monde va l'accepter. Pendant 60 ans, on a discuté. Pendant 60 ans, il y a eu des courants d'un côté, de l'autre. Il y a eu des conciles ou des pseudo-conciles, peu importe. Les empereurs n'étaient pas tellement chauds, finalement, pour l'homoousios, un dieu qui est amour, un dieu qui porte en lui à la fois le mystère de l'unité et le mystère de la différence, ce que nous cherchons dans tout amour, finalement. C'était peut-être moins sympathique pour l'empereur qu'un dieu solitaire et tout-puissant dans le ciel dont l'empereur était le reflet. Et alors, ils étaient plutôt pour des gens plus ou moins arianisants. Et puis, petit à petit, un autre problème s'est posé. Il y a aussi l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint ? Est-ce que c'est une force, simplement, ou bien est-ce que c'est Dieu ? Est-ce qu'on peut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit ? Ça posait un problème. Beaucoup étaient des ennemis de l'Esprit Saint. On disait des pneumatomaques, n'est-ce pas? Et il y avait aussi, alors il y a eu un second arianisme extrêmement subtil au IVe siècle, autour d'un théologien très aristotélicien qui s'appelait Un homme, et qui disait, par la pensée humaine, je peux coïncider avec l'essence divine. La pensée humaine peut exprimer l'essence divine. Alors là, il y a eu cette réaction extraordinaire. Tous les pères de l'Église, au IVe siècle, ont écrit des traités contre Un homme. Et alors là, on voit apparaître ce respect extraordinaire des pères, et en général qui est resté dans l'Orient chrétien. On ne peut pas soumettre Dieu à un système de concepts. On ne peut pas faire un système de concepts en disant « voilà comment est Dieu ». Dieu, finalement, on ne peut approcher de mystère que par des antinomies ou par des négations, en disant « non, il n'est pas ce que vous croyez ». Ou bien « il est ceci, oui, mais il est aussi cela », qui paraît complètement opposé d'un point de vue rationnel, et il est les deux en même temps. Ben, c'était déjà le cas à Nicée avec cette formule. Mais alors, justement, la formule de Nicée n'était pas suffisante, parce que pour certains, il semblait que finalement il y avait une sorte de confusion du père et du fils et qu'il fallait les distinguer. Mais alors, problème, ou bien on ne les distingue pas, il y a une confusion, ou bien on les distingue et il y a une séparation. Et il fallait trouver, justement, exprimer, tant bien que mal, car la parole humaine est toujours insuffisante, exprimer cette immense antinomie de l'unité et de la diversité en Dieu même. Et par conséquent, dans l'humanité, qui est à l'image de Dieu. Alors là, il y a eu l'œuvre immense, je laisse de côté Athanase d'Alexandrie, qui a réalisé certainement un travail immense sur l'homoousios, mais pour nuancer l'homoousios, pour compléter l'homoousios, il y a eu l'œuvre immense des pères qu'on appelle les pères cappadociens. Cappadociens parce qu'ils étaient issus de cette région qui est aujourd'hui au sud-est de la Turquie, qui est célèbre dans le tourisme, parce qu'il y a eu là une vie monastique extraordinaire qui a creusé le tuf qui est tendre. Alors il y a eu des grottes, il y a eu des pitons dans lesquels se perchaient des ermites. Mais en Cappadoce, il y a aussi des vallées fertiles, avec des villes, avec des vignobles, avec des oliviers. Et là, il y avait des familles qui avaient subi d'ailleurs la persécution, où il y avait des ancêtres qui avaient été martyrs ou confesseurs de la foi, et dont les enfants avaient une excellente culture. Ils allaient souvent à Athènes ou à Antioche, mais surtout à Athènes. Et ensuite, alors, ces rhéteurs, comme on disait, car on devenait un rhéteur quand on maîtrisait tous les arts de la rhétorique et qu'on savait faire un discours et aussi faire un rapport administratif. Et c'est comme ça qu'on devenait gouverneur de province. Ils devenaient des hommes qui savaient exprimer, d'une certaine façon, approcher le mystère de Dieu. Et alors, réfléchissant, ils appelaient Saint Basile, évêque de Césarée, Basile le Grand. Il y avait Saint Grégoire de Nazianze, qui était l'ami de Basile, un homme... Basile est un homme solide, fort, n'est-ce pas, comme un roc, qui résiste à l'empereur, qui est plus ou moins arianisant. Et puis, il y avait Saint Grégoire de Nazianze, qui était son ami, un homme introverti, extrêmement timide, n'est-ce pas. Mais, quand on lui a demandé d'aller dans la capitale, à Constantinople, et de prendre la défense du mystère trinitaire, à une époque où les Ariens tenaient la ville, avec l'appui de l'empereur, il y est allé. Il y est allé avec un courage total, n'est-ce pas ? Et il a fait une œuvre extraordinaire. Ce sont surtout les discours de Saint Basile. Lui était un puissant spéculatif. Il a écrit un traité du Saint-Esprit qui est vraiment admirable. Saint Grégoire de Nazianze a écrit des discours théologiques et même des poèmes. C'est un poète. C'est un poète qui aime parler de lui. Toujours on dit qu'en Orient, personne ne parle de soi, qu'on parle seulement des choses sérieuses, n'est-ce pas? Pas du tout, n'est-ce pas? Il parle de lui et de choses sérieuses et moins sérieuses. Mais il a écrit des discours admirables dont nous trouvons souvent le texte dans la liturgie. Une partie de ses discours est passée dans nos textes liturgiques. Et puis, il y avait Saint Grégoire de Nice, qui était le frère un peu plus jeune de Saint Basile, et qui lui sera alors le mystique le plus profond des trois, et qui donnera le plein toute sa mesure après la mort du grand frère. Ça arrive dans les familles qu'il avait un peu sans doute écrasé. Et alors les trois ont réfléchi et sont arrivés à dire oui, Dieu est unité totale. Et alors cette unité, comment la définir? C'est le Père, bien sûr, qui est la source. Quand nous parlons de Dieu, c'est le Père avec son Esprit, avec son Fils. Mais c'est aussi la communion des trois. C'est ce mystère de l'amour en Dieu. Dieu est amour. Et c'est là qu'on le sentait concrètement. Et donc, il fallait dire à la fois ce qu'avait dit Nicée, homoousios, et même ajouter à cet homoousios du Fils par rapport au Père, un homoousios de l'Esprit par rapport au Fils et au Père. Mais il fallait aussi bien préciser que le Père, le Fils, l'Esprit ne pouvaient pas se confondre, que chacun était, comme on disait dans le grec de l'époque, repris par les chrétiens, une hypostase, nous dirions, nous, une personne au sens théologique du mot, pas au sens psychologique, pas au sens sociologique, était une hypostase, une personne unique, qui ne pouvait pas être confondue avec les autres, tout en ayant avec les autres un lien total d'unité. Et donc, c'est là que c'est précisé ce mystère de l'unité, diversité en Dieu. Et, bien sûr, tant que l'empereur était hostile, parfois au christianisme, avec Julien l'Apostat, soit à la foi nicéenne, avec Constance, Constant, etc., en 381, un Espagnol qui s'appelait Théodose est devenu empereur et lui était fidèle à la foi de Nicée. Et immédiatement, il a dit, il faut un concile pour clarifier tout cela. Et c'est ainsi que s'est réuni le concile que nous appelons deuxième concile œcuménique, et qui était à cette époque presque uniquement un concile de l'Orient, mais qui a été reconnu par toute l'Église. D'ailleurs, un an après, ce concile a envoyé un message à l'Occident, et ce message résume très bien ce que je viens d'essayer un peu et pauvrement de dire. Et alors, ce concile a, si j'ose dire, répondu au pneumatomaque en ajoutant au credo toute une formule consacrée à l'Esprit Saint. Et je crois en l'Esprit Saint, Seigneur, donateur de vie, Zoopoyoun, c'est-à-dire qui crée la vie, qui suscite la vie, qui vivifie, Seigneur, donateur de vie, qui procède du Père, c'est une formule de Jésus, tirée du 15e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, qui, avec le Père et le Fils, est conjointement adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et ensuite on enchaîne, et en l'Église, car l'Esprit Saint se manifeste dans la profondeur de l'Église. C'est un point qui m'a fait difficulté longtemps, je me disais, mais enfin, pourquoi dire qu'il a parlé par les prophètes et maintenant il ne parle plus? Et j'ai compris après qu'il parle par l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, il continue. Et ce sera le cas jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas?
C'était donc la première émission sur les conciles œcuméniques avec Olivier Clément, une rediffusion de l'émission du 1er août 1999. Notre prochaine émission, dimanche 22 novembre. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Sedex 16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.com.
Demain, de minuit à minuit,
en direct de Berlin,
Radio France fait le mur
Berlin
pour fêter 20 ans de liberté.
Les portes s'ouvrent.
Pendant 24 heures, les journalistes,
producteurs,
animateurs
et chroniqueurs de toutes les chaînes de Radio France
vous offrent un programme exceptionnel.
Berlin. Des rendez-vous inédits, des archives sonores, des reportages pour découvrir le Berlin d'aujourd'hui, des invités, des débats et deux concerts en direct de Berlin pour fêter le 20e anniversaire de la chute du mur.
De minuit à minuit, un programme
multiple
pour une antenne
unique.
Radio France à Berlin.
Une journée événement à suivre demain sur toutes les chaînes du groupe Radio France.
Toutes les infos sur radiofrancefuilemur.fr.
Le service protestant.
Une émission de la Fédération protestante de France.
Suis-je vraiment l'ami de Jésus ? C'est la question que pose ce matin le pasteur Marie-Laure Fenet de la Fédération des Églises évangéliques baptistes à Sartrouville. Une question et une réflexion à partir d'un texte de l'Évangile de Matthieu, la parabole des 10 jeunes filles. Vous écoutez France Culture, voici le culte protestant.
Bonjour, je suis heureuse de passer ce temps avec vous. Notre partage peut sembler virtuel, moi seule à parler là devant mon micro et vous à m'écouter. Aussi, je vais m'appliquer à être la plus concrète possible, afin que nous puissions en quelque sorte nous rejoindre en mettant en pratique, vous et moi chacun dans nos vies, ce que Dieu attend de nous, ce qu'il nous dit de faire dans sa parole. Nous allons commencer par un temps de reconnaissance envers Dieu, stimulé par la lecture du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi, de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Si je devais transcrire avec des mots l'élan de mon cœur, ce qui le fait vibrer quand je m'arrête, que je m'assois et que je pense à mon Créateur, ou bien quand je marche, ou quand je conduis, enfin lorsque j'avance et que je pense à mon Créateur, je dirais que ce qui gonfle mon cœur d'amour pour Dieu, c'est de savoir avec certitude qu'il est toujours avec moi, qu'il ne s'endort pas, qu'il ne somnole jamais, qu'il est attentif à tout. Il est parfait, vraiment parfait. Il est avec moi, Dieu est toujours avec moi. Les promesses que Dieu me fait, que Dieu nous fait, ce n'est pas rien. Écoutez cette promesse que Jésus nous a faite.
Et ce moment à la fin, au moment où il s'en va, et il envoie ses amis, allez, allez, je vous envoie vraiment, vous irez en mon nom, vous direz qui je suis, vous direz mon nom, vous direz qui je suis, tout ce que je vous ai dit. Et lui qui a cette phrase belle, quant à moi, je serai avec vous chaque jour, jusqu'au moment de revenir, chaque jour, et d'ici là, chaque jour. C'est quelque chose. Promesse que Jésus donne, c'est pas rien.
Les promesses que Jésus nous fait, ce n'est pas rien. Laissez-moi adresser à Dieu, en notre nom à tous, cette prière de reconnaissance. Éternel, tu es notre certitude. Ta présence, ton amour pour nous, ta protection sont des certitudes dans le climat d'incertitude dans lequel nous vivons. Nous savons que tu parcours du regard la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Nous savons que tu es avec nous, tous les jours. Nous savons que tu penses constamment à nous, que tu veilles sur nous, ce sont nos certitudes. Nos cœurs ont envie de répéter, la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es grand, que tu es tout puissant, notre Dieu d'amour.
Dieu tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Je tourne mon air, alors s'élève, chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je tourne mon air, alors s'élève, chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Les voix où la forêt profonde chère et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrit à chaque.
Nous reconnaissons que notre Dieu est ce grand Dieu. Et ce